Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont deux noms qui emportent la mise dans la nouvelle équipe Castex. Roselyne Bachelot à la culture et l'avocat Éric Dupond-Moretti à la justice. Deux stars des médias, deux forts en gueule qui écrasent en réalité ce remaniement de leur notoriété. Le nouveau garde des Sceaux qui, dès la passation de pouvoir, a donné de la voix, a dressé le début d'un programme. 30 ministres, une parité respectée, quelques figures nouvelles issues des rangs de la société civile et des poids lourds qui ont été promus, comme Gérald Darmanin qui devient à 37 ans le plus jeune ministre de l'Intérieur de la Ve République. Un changement d'équipe pour une fin de mandat qui ancre en réalité la Macronie plus à droite. Alors, quels enseignements politiques tirer de ce remaniement? Quel est le pari de Macron en faisant entrer des cadors comme Roselyne Bachelot ou Éric Dupond-Moretti? Quelles sont les urgences qui attendent cette nouvelle équipe? Remaniement, place au ténor. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique à l'Express, à la une de votre magazine cette semaine. Macron, avec ce titre, après le fiasco des municipales, 8 chantiers pour redresser la France. Et je rappelle votre livre, Macron sous les masques, publié aux éditions de l'Observatoire. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Je renvoie à votre dernier article sur Nadia Hay, une élue de Trappes au ministère de la Ville. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Enfin, votre dernier livre, La Communauté, est publié aux éditions Albin Michel. Ivan Trippenbach est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste politique à l'Opinion. Vous suivez entre autres les questions régaliennes. Je cite votre article du jour. Éric Dupond-Moretti, une vedette du barreau à la justice pour rendre les coups. Enfin, Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons revenir sur ce casting de Castex. À votre avis, Christophe Barbier, quand on voit, on reprend les déclarations d'Emmanuel Macron, ses toutes dernières déclarations où il promettait aux Français de renverser la table. Quand on fait l'addition de la nomination de M. Castex à Matignon, plus ce casting, est-ce qu'il a renversé la table ?
Non, il n'a pas renversé la table. Notamment parce qu'il lui manque, et on ne l'a pas trop vu parce qu'il y a eu ces deux nominations tellement spectaculaires, il lui manque d'avoir effectué des prises de guerre, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir réussi des transferts, des transfuges puissants venant de la gauche ou venant de la droite. Un peu comme il avait réussi en 2017, où on avait vu Bruno Le Maire, Édouard Philippe rejoindre le bateau macroniste. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Il y a eu quelques tractations plus ou moins fondées, avérées, avec Ségolène Royal ou Valérie Rabault à gauche. On a entendu parler de certains noms à droite, comme le député Guillaume Larrivé et quelques autres, mais au bout du compte, personne. Ah si, il y a une présidente de conseil général qui vient de la droite, certes, c'est intéressant. Il y a Brigitte Bourguignon, qui était socialiste et qui, en passant par la Macronie, finit par arriver au gouvernement. Mais on ne peut pas dire que la fracturation du paysage politique tellement spectaculaire en 2017 se soit prolongée par un nouveau séisme en 2020. La poutre travaille encore, disait Édouard Philippe régulièrement, pour expliquer qu'on continuait à forcer sur l'ancien paysage politique. C'est pas complètement faux cette fois-ci, puisque la droite se renforce, Darmanin est à l'intérieur, on voit bien les évolutions politiques. Roselyne Bachelot vient d'une droite filloniste. Éric Dupond-Moretti vient d'une certaine gauche. Il y a des choses qui sont du mouvement sociopolitique. Mais on n'a pas cet achèvement de la destruction de l'ancien monde par un remaniement révolutionnaire.
C'est une équipe qui marque une forme de continuité, Raphaël Baquet. C'est un peu ce que dit Christophe Barbier à l'instant. C'est-à-dire que ce n'est pas la révolution qu'on avait vue à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, où il y avait cette fracturation de l'ensemble de la classe politique. Mais il y a quand même des créneaux sur lesquels il continue d'avancer, notamment sur la droite.
Oui, et on voit même que c'est un gouvernement plus pro, ou du moins un peu plus expérimenté. La difficulté du nouveau monde qu'avait voulu initier Emmanuel Macron, c'est que justement, il avait beaucoup de débutants quand même dans sa première équipe. Même si Dupond-Moretti n'a jamais été ministre, mais enfin, c'est un avocat qui connaît bien le monde de la justice. Donc, on voit qu'il a de nouveau mis des ministres un peu plus pro, quitte à avoir recours à l'ancien monde. Mais ce qui est important, c'est qu'il a aussi élargi. Le découpage du gouvernement est aussi intéressant. Il prend note de certaines insuffisances. Il élargit Bercy, il élargit l'éducation nationale. Il change aussi un peu la structure du gouvernement.
Avec un message politique, Ivan Trippenbach ? Tout le monde a dit cap à droite. Est-ce que c'est si lisible que ça dans l'équipe telle qu'elle est présentée aujourd'hui ?
Oui, parce que ceux qui ont été promus sont ancrés à droite, on l'a dit précédemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a tellement attendu ce remaniement depuis la promesse de réinvention d'avril qu'effectivement, il y a un effet déceptif. On attendait le tournant écologiste, le tournant à gauche, le tournant social. Après, cela étant dit, on peut quand même noter la réussite de la nomination des deux stars dont on reparlera sans doute. Et il faut aussi attendre le fond qui va suivre, c'est-à-dire la déclaration de politique générale qui viendra le 15 juillet après l'allocution d'Emmanuel Macron, qui va donner la coloration de la politique de Jean Castex. Et puis aussi le plan de relance qui va être travaillé durant l'été et qui représente des dizaines de milliards d'euros pour soutenir l'emploi, la rénovation énergétique, le Ségur de la santé. Donc attendons aussi de voir en complément de ce casting qui peut être décevant en première analyse, ce qui va suivre d'un point de vue social
et écologique. C'est important ce que dit Ivan Trippenbach, parce que c'est vrai que depuis, vous avez raison, ça fait long, depuis avril, hein, on attend la réinvention du chef de l'État. On nous expliquait que ce n'était pas une question d'homme, que d'abord il fallait avoir une feuille de route et qu'ensuite on verrait, on fera un casting sur mesure. Là, on fait un petit peu les choses à l'envers,
c'est
comme l'inverse. C'est ça.
C'est tout l'inverse. La ligne politique ne change pas vraiment, elle reste plutôt ancrée à droite. En revanche, le style change. Je crois que c'est un gouvernement qui vise à réfuter le procès en technocratie qui est fait depuis le début à ce gouvernement. Donc on fait rentrer des personnalités qui sont plus rugueuses, qui accrochent davantage dans l'opinion, qui sont plus issues en style et même en profil du peuple. Mais sur la ligne politique, rien ne change ou presque. Renforcement du poids des ténors de droite et effacement de tous ceux qui n'imprimaient pas ou qui étaient, à tort ou à raison, plutôt perçus comme des technos. Je crois que c'est ça la seule véritable différence. Elle n'est pas anodine, malgré tout, parce que ce procès en un gouvernement d'en haut, par tableau Excel, etc., il avait forcément imprimé dans l'esprit des Français. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes, c'est pas si vieux. Et là, pour le coup, on a des gens qui tonnent davantage, qui accrochent davantage la lumière et qui sont davantage en phase, peut-être, avec une partie des préoccupations des Français.
Quel est l'objectif de faire entrer des ténors? Parlons d'abord de Roselyne Bachelot et puis on parlera un tout petit peu plus tard d'Éric Dupond-Moretti. Quel est l'objectif recherché? Donner de la voix, c'est une chose, mais avec quel but?
Il y a un double objectif. Il y a un objectif médiatique, c'est-à-dire non seulement avoir des vedettes, dont on parle, d'ailleurs ça marche depuis un peu plus de 24 heures, mais aussi des gens qui touchent, des ministres qui touchent le peuple. Ce sont des figures connues et populaires qui savent trouver les mots pour s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément des experts. Éric Dupond-Moretti vient de cette France d'en bas et il a défendu cette France d'en bas, et Roselyne Bachelot a toujours su se mettre à la hauteur de monsieur et madame tout le monde. C'est une vertu de son côté. Et puis il y a un objectif politique quand même, c'est d'occuper des territoires. Et notamment avec l'arrivée de Roselyne Bachelot, Macron continue à occuper toutes les droites possibles. La droite sarkozyste, évidemment, avec Castex, avec Darmanin. La droite de Xavier Bertrand, avec Jean Castex aussi. La droite séguino-fillonniste, avec Roselyne Bachelot. Parce que Macron sait que ce qui peut lui arriver de pire d'ici 2022, c'est le surgissement d'un candidat de droite modéré, crédible sur les réformes, aimé du peuple, et qui puisse supplanter Macron dans la résistance au populisme. Il ne craint pas trop la gauche qui est divisée et qui s'entre-déchire, il craint beaucoup la droite. En occupant les territoires idéologiques par l'action des ministres, mais aussi par leur personnalité, il se vaccine un petit peu contre ce risque-là.
Il regrettait de ne pas avoir suffisamment de punchers dans les médias, Emmanuel Macron, à votre avis, à Brice Teinturier ?
Oui, je pense qu'il avait quand même du mal à faire passer une ligne. Il avait des ministres dont on disait souvent qu'ils étaient faibles pour porter l'action gouvernementale. Du coup, ça revenait en direct sur l'exécutif, à commencer par le président de la République. Donc là, ce nouveau casting va servir un peu peut-être à cela. Et puis je crois que une des leçons politiques, malgré tout, qu'il faut tirer, c'est que très clairement, Emmanuel Macron fait le pari que la vague écologiste du second tour des municipales, ce n'est pas le danger pour lui. Il ne croit pas à une alternative gauche écologiste. Il croit toujours à un affrontement potentiel entre lui et Marine Le Pen, d'où l'idée d'étouffer la droite qui pourrait venir perturber ce jeu.
Mm-hmm. Raphaël Baquet ?
Oui, c'est même pratiquement l'unique critère. On parle de Roselyne Bachelot qui est une figure connue. Mais
qui était sortie quand même, juste il faut le rappeler aux gens qui nous regardent, qui était complètement sortie du jeu politique et qui le revendiquait. Quelle horreur, retourner en politique, jamais.
Oui, elle faisait même figure de celle qui disait publiquement les coulisses, elle désacralisait au fond ce qu'était la politique, hein, avec une forme de pédagogie assez talentueuse. Donc là, on la voit arriver à la culture, mais en fait, ce qui compte, c'est quand même, est-ce que le budget de la culture va augmenter? Il est très contraint, vous voyez. Donc elle peut être extrêmement populaire, avoir du talent, être médiatique, mais ça ne change pas forcément le fond de la politique. C'est pour ça que j'insistais sur le découpage aussi du gouvernement. Là, on regarde évidemment les figures, est-ce qu'elles sont populaires, est-ce qu'elles accrochent la lumière. Mais après, dans un mois, tout ça sera tout à fait terminé et on regardera très concrètement la politique qu'ils mènent.
Et de la même manière, Oui, de la même manière, pour Éric Dupond-Moretti, est-ce qu'il va, l'enjeu c'est pour lui, c'est de savoir est-ce qu'il va convertir en quelque sorte sa gouaille des prétoires en politique publique, en réforme, ce qui va être assez compliqué, parce qu'il est dans une situation difficile avec les avocats, avec la magistrature. Il y a plusieurs réformes qui sont en cours.
Et on va en parler tout à l'heure, mais vous avez raison. Et dès ce matin, il a commencé quand même à donner de la voix et à montrer qu'il avait des choses à dire dans ses fonctions, ses nouvelles fonctions de garde des Sceaux. En tout cas, ils avaient rendez-vous en début d'après-midi pour un premier conseil des ministres à l'Élysée, un baptême du feu pour 8 nouveaux entrants, car les 3/4 du casting faisaient déjà partie du précédent gouvernement, parfois même à une autre place. Mais ce sont les premiers pas des deux ténors qui ont retenu l'attention depuis ce matin, Laura Rado, Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
Autour du chef de l'État, un exécutif remanié et élargi.
Monsieur le Premier ministre.
Réunis dans la salle des fêtes, les nouveaux ministres de Jean Castex, 17 femmes, 14 hommes, et de nouvelles têtes, parfois très familières. C'est une Roselyne Bachelot tout sourire qui a pris ses fonctions hier soir. L'ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy fait son grand retour en politique, à la culture. Cette passionnée d'opéra vient au chevet d'un secteur en souffrance après l'épidémie de coronavirus.
Pour moi, l'urgence absolue en ce début d'été sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de culture, festivals, théâtres, musées, cinémas, monuments historiques. C'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emplois directs et emplois périphériques.
Mais la vraie surprise de cette nouvelle équipe, c'est lui, Éric Dupond-Moretti, ténor du barreau. Nommé garde des Sceaux, il prend la place de Nicole Belloubet, très émue de quitter le gouvernement ce matin. Très attendu aussi, le nouveau visage de l'écologie, ce sera Barbara Pompili. Celle qui a fait ses débuts chez les Verts a rejoint la Macronie en 2017. En deuxième position dans l'ordre protocolaire, elle aura la lourde tâche d'incarner le virage écolo du quinquennat.
Je me garderai bien d'établir tout de suite un programme d'action qui serait par nature incomplet. À peine l'aurais-je prononcé qu'on va me reprocher d'avoir négligé telle ou telle urgence, telle ou telle priorité. Et je sais trop la place des procès d'intention dans les débats autour de l'écologie. Je ne demande pas à être jugée sur mes intentions, mais sur les résultats que nous aurons atteints ensemble.
Autres entrants quasiment inconnus. Elisabeth Moreno, 49 ans. Cette patronne du secteur numérique remplace Marlène Schiappa à l'égalité entre les femmes et les hommes. Alain Griset, ex-chauffeur de taxi lillois. Il devra aider les PME et les artisans à survivre à la crise. Mais le nouveau gouvernement s'inscrit surtout dans la continuité. Bruno Le Maire est conforté à Bercy, avec une tâche supplémentaire, la relance. Jean-Yves Le Drian et Florence Parly gardent respectivement les affaires étrangères et les armées. À l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer rempile pour une rentrée qui s'annonce compliquée. La plus belle promotion est sans nul doute celle obtenue par Gérald Darmanin. À 37 ans, il endosse le costume de premier flic de France, le plus jeune de la 5e République. À peine nommé, et déjà sur le terrain. Une visite très symbolique au Mureau, le commissariat où travaillaient deux policiers assassinés par un terroriste en 2016.
Je voudrais vous assurer du soutien indéfectible du gouvernement et de mon soutien et dire à M. le directeur général de la police nationale que l'ensemble des femmes et des hommes qui sont sous autorité pourront toujours compter sur moi.
Gérald Darmanin, un ministre de droite qui remplace un marcheur historique de gauche. Christophe Castaner, sous le feu des critiques, a été remercié après 20 mois place Beauvau.
Monsieur le ministre, Madame la ministre, au moment de quitter ce ministère, j'ai une immense reconnaissance pour le président de la République, Emmanuel Macron. Je le remercie pour sa confiance et je veux lui dire mon fidèle soutien.
Eux aussi ont dû faire leur valise. Muriel Pénicaud quitte le ministère du Travail, ainsi que Didier Guillaume, jusque-là en charge de l'agriculture. Très proche d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye tire également sa révérence. Gabriel Attal lui succédera pour porter la voix de ce nouveau gouvernement.
Juste un mot sur les sortants. On retrouve quand même des très proches d'Emmanuel Macron, dont on disait parfois sur les plateaux de télé, mais non, il ne sacrifiera pas ses amis de la première heure. Je pense à Sibeth Ndiaye ou à Christophe Castaner.
Mais ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils ont eu la conquête, c'était pas évident, entre 2014 et 2017, de porter cette aventure macronienne. Et puis un exercice du pouvoir qui les a quand même usés. Ministère de l'Intérieur, par définition, ça carbonise. Quand en plus on a subi les épreuves qu'a subi Castaner, les gilets jaunes, c'est fatigant. Par ailleurs, il a été contesté dès le début, il a parfois fait des pas de côté. Le dernier, c'est cette fameuse expression, le soupçon avéré pour suspendre un policier en cas de violence suspectée. Tout ça a fini par avoir raison de sa résistance. Pareil pour Sibeth Ndiaye. Elle était dans l'équipe, le cœur de l'équipe, le commando Macron. Elle s'est usée dans un premier temps à l'Élysée. C'est l'équipe qui a subi l'affaire Benalla. Le porte-parole, il n'y a rien de plus brûlant que ce poste-là. Finalement, c'est assez logique et je pense que c'est bon pour eux. C'est bon pour eux de sortir maintenant. C'est jamais glorieux les sorties bon, quand on claque pas la porte soi-même. Et ça leur laisse une possibilité de faire autre chose et de revenir éventuellement pour une aventure 2022-2027 si Emmanuel Macron est réélu.
Un brin de malice à ma droite. Hein.
Oui, vous dites c'est surtout bon pour
le président.
Ils étaient quand même très impopulaires, il faut bien le dire. Sibeth Ndiaye, parce que bon, c'est vrai, c'est un job très difficile. On peut pas dire qu'elle l'ait fait toujours avec finesse. Hein, et elle est parfois... elle avait parfois fait preuve d'une certaine arrogance qui passait très mal. Quant à Christophe Castaner, il avait quand même beaucoup d'adversaires dans la place. On contestait sa capacité, d'abord son sérieux, enfin son manque de sérieux du moins, et sa capacité à vraiment tenir les troupes.
Et on va parler de son successeur qui est Gérald Darmanin. Je voudrais juste vous poser cette question. Castex, Le Maire, Darmanin, Bachelot, Lecornu, Blanquer, Klinkert, vous avez dit ni de gauche ni de droite ? C'est Gérard dans les Bouches-du-Rhône qui nous dit ça.
Mais bien sûr, la ligne de droite est une ligne renforcée. Et le grand vainqueur, je crois, moi, de ce remaniement, c'est Bruno Le Maire. Vu la période et vu ses attributions, c'est bien lui qui va jouer un rôle clé dans la poursuite du quinquennat. Darmanin, c'est aussi important.
Mais il est Premier ministre bis, Bruno Le Maire ?
Je ne sais pas s'il est Premier ministre bis, mais il a quand même en main tous les dossiers clés. Et à partir du moment où Macron changeait de Premier ministre, il devait changer avec les historiques de la Macronie. Parce que c'était un président sans mandat quelque part, qui avait perdu son mandat initial sur lequel il avait été élu, parfaitement légitime, hein, je ne dis pas qu'il est illégitime, mais son mandat premier a été bouleversé par les gilets jaunes, puis par le Covid. Il fallait qu'il retrouve un mandat, il le retrouve en tranchant dans la Macronie, en n'étant plus sur les sachants, la mobilité, la transformation, de la même manière qu'en 2017. C'est ce qu'il fait, mais il le fait avec un ancrage à droite plus marqué.
Oui, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on change de Premier ministre, normalement, soit c'est parce qu'on a perdu les élections, c'est un peu le cas avec les municipales, soit parce qu'on change de politique. Or là, en ayant maintenu un Bruno Le Maire, en l'asseyant très fermement à Bercy, alors que Bruno Le Maire avait des conflits avec Édouard Philippe, hein, qui lui reprochait de ne pas être assez solidaire, de ne pas jouer, de ne pas avoir assez d'esprit d'équipe. On montre qu'on va continuer dans la même veine, face à une crise économique qui s'annonce quand même très très rude. Donc je pense que quand on regarde le gouvernement, en dehors des coups médiatiques et des changements, c'est ça le truc important, c'est vraiment la place de Bruno Le Maire.
Et justement, pendant le Conseil des ministres, Emmanuel Macron a commencé la réunion en félicitant Édouard Philippe et en expliquant que Jean Castex est un homme de terrain. Voilà comment il a justifié sans doute l'arrivée de Jean Castex aux responsabilités. Vous voulez dire un mot, Ivan Trippenbach, avant de parler de Gérald Darmanin, qui est quand même le promu de ce remaniement.
Oui, absolument. Et du coup, c'est lié. Ce qui participe un petit peu de l'idée que ce gouvernement penche beaucoup plus à droite que ce qu'on imaginait, c'est la reprise en main souhaitée par l'Élysée du régalien. Donc on le voit à la justice avec Éric Dupond-Moretti qui est l'exact miroir en fait de Nicole Belloubet. Lui a une personnalité très forte.
On va en parler dans un instant.
Une grande notoriété. Et puis Gérald Darmanin qui ne change pas de ligne par rapport à Christophe Castaner. Il s'est affirmé ce matin comme le premier flic de France. Il a eu des expressions très fortes sur l'autorité, sur la lutte contre ce qu'on appelle le séparatisme, l'islamisme politique. Donc, reprise en main, mais pas de changement fondamental de ligne. En revanche, effectivement, Christophe Castaner est parti très applaudi, mais très abîmé aussi de la place Beauvau. Et puis, plus largement, quand on parle du régalien de manière un peu plus large, on note un souci de la cohésion républicaine, de la cohésion, de l'unité de la République, quand on examine un petit peu les portefeuilles de ministres délégués. Donc, on a la politique de la ville, c'est très classique, mais l'égalité des chances, ministère délégué à la citoyenneté pour Marlène Schiappa, donc on ne sait pas encore ce que c'est exactement, mais on a des intitulés qui dénotent une volonté de cohésion pour ne pas rouvrir un front sur les sujets sociétaux régaliens en même temps que la crise économique et sociale va se profiler à la rentrée.
Sur le portefeuille de Marlène Schiappa, dont on disait aussi qu'elle allait être promue, elle est aux côtés de Gérald Darmanin, on va en parler, hein, de Gérald Darmanin, avec un portefeuille à la citoyenneté.
Qui reste flou. C'est un gouvernement de mission, avait dit le président. On aimerait connaître l'éclaircissement de certaines missions. La transformation de la fonction publique, pour Amélie de Montchalin, c'est quoi la transformation? La transformation de quoi? De l'État? Et puis la citoyenneté, pour Marlène Schiappa, dans un ministère où il faut peser chaque mot, alors que dans son ministère précédent, dans son portefeuille précédent, la provocation, la participation à des débats publics parfois virulents, des virées chez des animateurs télé, parfois contestés mais très populaires, c'était possible. Là, quand on est à l'intérieur, on est dans un univers où il faut faire un petit peu plus attention. Et puis la citoyenneté, c'est quoi? Est-ce que c'est la lutte contre le séparatisme? Est-ce que c'est la résurgence macronienne du ministère de l'identité nationale? Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen français ou ne pas l'être? On attend sa feuille de route et puis on attend son vrai portefeuille de conviction, ce qu'elle va y mettre. Elle est aux côtés d'un ministre qui, en effet, ce matin, a insisté sur la lutte contre l'islam politique. Il a, en 2016, avant même l'aventure macronienne, produit une vingtaine de propositions, Gérald Darmanin, sur l'islam français. Donc on sent que ça va être un ministre des cultes autant qu'un ministre de la police.
Ce qui était un sujet qui était peu porté par son prédécesseur. Effectivement, il a eu cette phrase. Il dit « Je lutterai de toutes nos forces contre l'islamisme politique qui attaque la République ».
Oui, Christophe Castaner n'était pas très à l'aise avec ce domaine. Il le laissait à Emmanuel Macron, qui nous a promis depuis plus de 3 ans maintenant un grand discours sur la laïcité qu'on attend toujours.
Et Marlène Schiappa est une tenante de la laïcité. Oui. Hein. Donc, c'est une militante de la laïcité. Donc, peut-être que ça va être ça, au fond, ce portefeuille encore assez flou.
L'ascension de Gérald Darmanin, on a beaucoup dit ces dernières semaines, et on se trompe parfois, il faut l'assumer, qu'il voulait un grand ministre des Affaires sociales, ce qui était peut-être vrai, d'ailleurs, à l'époque. Gérald Darmanin, 37 ans, qui arrive au ministère de l'Intérieur, c'est une figure identifiée par les Français, Gérald Darmanin.
Oui, c'est une figure maintenant identifiée par les Français. C'est un parcours assez époustouflant. Hein. Réélu dès le premier tour dans sa ville et maintenant promu ministre de l'Intérieur, plus jeune Premier ministre de l'Intérieur de la Ve République et même depuis pas mal de décennies. Donc c'est quelqu'un qui va incarner le pôle de l'autorité républicaine. Il a toujours été sur ce sillon, sur ces valeurs-là. Il incarne aussi une dimension plus populaire que l'incarnait Castaner, par exemple. Et ça correspond bien, je crois, à cette ligne directrice qui est on fait le choix de la réponse aux populistes beaucoup plus que le choix de la réponse aux écologistes. Il y a très clairement aussi une ligne à travers le casting, à travers le côté un peu grande gueule qu'ils vont imprimer, de volonté donc de répondre à cette tentation des Français et d'y répondre plutôt sur ce sillon-là qu'en allant chercher des écologistes.
Une petite vacherie quand même de Christian Jacob sur Gérald Darmanin. Si j'étais le président, je m'en méfierais. Il a les gènes de la trahison.
Oui, c'est son idée de Sarkozy aussi quand on était dans le camp des Chirakiens après l'épisode de Balladurien. Ça l'a pas empêché d'être président de la République.
Alors, c'est ce que Jacob disait aussi d'Edouard Philippe, c'est un traître, il l'a redit et redit. Donc pour Christian Jacob, il y a vraiment ceux qui sont allés en Macronie sont des traîtres. C'est très clair, il maintient cette ligne.
Mais il ne se trompe pas. Pour la droite, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron dit souvent de Gérald Darmanin, c'est le meilleur de Sarkozy. Donc il le prend aussi pour ça. C'est-à-dire que ça couvre un champ de la droite.
C'est un bébé Sarkozy, Gérald Darmanin.
Ah bah oui. Oui. D'ailleurs, même, il lui ressemble presque physiquement. Donc oui, bien sûr. Et donc, Christian Jacob ne se trompe pas quand il dit c'est un prêtre.
Alors, c'était la question que je voulais vous poser.
Est-ce qu'il y a le Nord.
Est-ce qu'il y a une habileté politique de la part du président de la République à prendre M. Castex, qui était un proche de Xavier Bertrand, et Gérald Darmanin de le promouvoir à l'intérieur, alors que c'est aussi un proche de Xavier Bertrand? Est-ce qu'il y a une volonté gêner un prétendant?
Il lui vole des cartes dans son jeu. Imaginez Xavier Bertrand est le président de la République en 2022. Il aurait très bien pu nommer Jean Castex Premier ministre et Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur. Donc, en effet, Emmanuel Macron vient voler des productions sur le champ de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand a fait un bon parcours comme président de la région Hauts-de-France. Il a marqué des points pendant la crise des Gilets jaunes, pendant le débat sur les retraites, en s'opposant de manière habile, parce que parfois il apporte des solutions au pouvoir. Il commençait à incarner une possibilité pour la droite, sans trop se caricaturer, d'offrir une alternative. Et en effet, il vient là se faire dépouiller de quelques atouts. D'ailleurs, on l'a assez peu entendu depuis la nomination de Jean Castex être à l'offensive.
Il a dit du bien de Jean Castex.
Alors qu'il ne se privait pas de critiquer le président juste avant.
Il y a d'ailleurs 5 ministres venus des Hauts-de-France. Alors, pas toujours de droite, il y en a qui viennent de la gauche. Mais Xavier Bertrand qui dit toujours, face à ces technos, moi je viens d'une région populaire, là, il a 5 ministres qui viennent de sa région.
Alors, on a un petit peu parlé des ténors, on a parlé un peu de Roselyne Bachelot, de de Gérald Darmanin, de Bruno Le Maire. Parlons aussi, on va parler dans un instant de Éric Dupond-Moretti, mais parlons des nouveaux. C'est vrai qu'ils ont été un peu écrasés par la nomination de ces deux ténors, comme on les a appelés ce soir, ces deux stars des médias. Mais on peut dire un mot de Alain Griset, Elisabeth Moreno, Nadia Hay. Tiens, commençons peut-être avec vous par Nadia Hay, ministre déléguée à la ville. C'est une élue de Trappes.
Oui, c'est une élue de Trappes. C'est une jeune femme qui a fait une carrière dans la banque. Elle y est rentrée au guichet, puis elle a monté peu à peu les échelons. D'ailleurs, elle raconte très bien. Elle est d'une famille marocaine, d'origine marocaine. Elle-même, elle est née en France. Elle est musulmane et laïque. Elle est du privé et en même temps élue. Elle est vraiment parfaitement le et en même temps des débuts du macronisme. Hein. Et elle raconte très bien d'ailleurs que quand elle est arrivée dans la banque, le DRH l'avait reçue en disant « Mais vous êtes blonde !» Oui, elle est blonde et elle fait très attention à son allure. C'est une tenante de l'intégration à l'ancienne. Alors aujourd'hui, où justement il y a des mouvements qui accentuent, qui contestent ce mode intégration version SOS racisme et années 80, elle est encore
dans ce mode-là. Là, il y a un vrai message politique de la part du chef de l'État.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que déjà, lorsqu'elle a été élue, Emmanuel Macron l'avait reçue à plusieurs reprises. Trappes, c'est la ville record des départs au djihad en Europe. Et donc, c'est à Trappes qu'il avait mis en place les premiers tests et les premières missions de déradicalisation.
Un message politique aussi avec la nomination d'Alain Griset, ex-président de l'Union des entreprises de proximité, ancien patron des taxis lillois. Là, il y a un message politique. Il rejoint l'équipe de Bruno Le Maire.
Oui, il vient conforter l'arsenal de lutte contre la crise économique et pour la relance. C'est quelqu'un qui a su créer un nouveau partenaire social. Puisque au milieu de cette forêt entre les grandes entreprises et les PME, avec l'U2P, il a réussi à créer une sorte de nouvelle entité, dépassant le cadre du traditionnel artisanat, pour faire exister dans le dialogue social cette France des entrepreneurs qui sont trop gros pour profiter peut-être des aides aux plus petits et trop petits pour peser dans le concert des grands. Et vraiment, ils ont fait un très très gros travail pour faire exister cette frange de l'économie. Et si Bruno Le Maire arrive à s'appuyer sur lui, ça peut être un bon accélérateur pour la relance économique.
Le point commun à chaque fois, je trouve, c'est nous ne sommes pas des technos. Encore une fois, nous nous
appuyons. Il y a quand même cette volonté-là.
Ah, mais moi, je suis persuadé que le fil conducteur de ce nouveau gouvernement, c'est cela. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme, mais ce qui se veut être une politique s'appuyant sur des gens ayant une expérience du terrain, une expérience avec des vrais métiers, entre guillemets. Ce ne sont pas des professionnels de la politique. Et c'est pour casser cette image qui a tant nui à Emmanuel Macron du techno, le sachant, arrogant, qui regardait la France d'en haut en disant « moi je sais ce qu'il faut ». Mais là, c'est une inversion complète et on essaye de mettre en scène…
Avec des élus des territoires.
Absolument, avec des élus des territoires, avec des gens qui ont une expérience dans le privé.
Brigitte
Klinkert. Avec des gens qui ont des parcours un peu mixtes.
Qui ne sont pas passés forcément par les grandes écoles, parfois qui n'ont pas leur bac.
Je disais donc Brigitte Klinkert à l'insertion qui est venue de LR, qui est présidente du département du Haut-Rhin. Vous parliez aussi d'expérience, on peut parler de Elisabeth Moreno, qui est patronne de la tech. Elle était directrice générale Afrique du groupe HP. Elle vient du Cap-Vert. Là aussi, c'est un signal qui est envoyé.
Elle a commencé à monter sa petite entreprise avec son mari et puis elle se retrouvait à la tête pour l'Afrique de cette grande entreprise internationale. Donc c'est des vrais parcours d'ascension. Ça, c'est plus macronien, classique. Oui. On avait en 2017, notamment dans la vague des députés, beaucoup de profils de ce type, c'est-à-dire créateurs d'entreprises, la start-up nation, comme disait Macron. Et elle appartient plutôt à cette filière, mais en effet, ce n'est pas du tout une filière grandes écoles techno.
C'est plus la start-up nation. On n'est plus du tout dans ce paradigme.
C'est quand même l'esprit d'entreprise. C'est vrai pour Griset, c'est différent. Vrai pour elle.
C'est pas la start-up. Elle, oui, son profil et son parcours se rapproche de cela, mais globalement ce que l'on tente d'imprimer à travers ce gouvernement, c'est justement, nous ne sommes plus dans la start-up nation, on est dans la France, hein, pas le franglais.
C'est
les taxis, c'est l'expérience concrète du terrain, c'est les territoires, ce sont des gens qui viennent du privé, du public, qui ont des parcours méritocratiques. On est vraiment totalement dans l'expression de ce que devrait être la France.
C'est très Castex, hein. C'est la France de Jean Castex.
Fait,
Camille Pascal, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, voisin de bureau à l'Élysée de Jean Castex, disait il n'a pas découvert les gilets jaunes en ouvrant la porte de son appartement dans le 7e arrondissement de Paris. Oui. Il les avait sur ses ronds-points à Prades, 6000 habitants, crise économique. Et ça, c'est assez sa marque.
Vous allez nous dire que c'est son équipe.
C'est l'équipe de Macron. Quand on voit arriver les pointures qu'on a citées, Emmanuel Macron a fait un gouvernement pour gagner la présidentielle 2022.
C'est important de le souligner.
Il se trouve que c'est très important.
Quand on dit gouvernement de combat, c'est pour régler les problèmes des Français, mais aussi pour la présidentielle.
Peut-on être le président des riches quand on nomme Éric Dupond-Moretti à la justice. Voilà, il veut casser aussi cette image. Il est dans l'objectif 2022, recoudre le lien avec le peuple. Ça passe aussi par le choix de Castex et de son équipe.
Brigitte Bourguignon. Alors là, c'est un message envoyé à sa majorité.
Oui, c'est quelqu'un de gauche. Hein, c'est quelqu'un qui vient du Parti socialiste et qui s'est occupé du social. Donc c'est une légitimité de gauche. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y a pas beaucoup de signes donnés vers le PS, la gauche classique et les écologistes dans ce gouvernement.
Vous voulez dire un mot sur Brigitte Bourguignon ?
Oui,
c'était une voix identifiée au sein de La République En Marche pour porter des questions sociales.
Oui, puis surtout, elle présidait la commission d'enquête sur le Covid. Donc, elle avait un poste un peu important et on l'avait vu là, dans les auditions de la commission d'enquête.
Allez, on parle du ténor. Il n'a pas attendu pour imposer son style. Dès la passation de pouvoir ce matin, Éric Dupond-Moretti a donné de la voix et un cap pour son ministère avec des priorités comme notamment l'indépendance de la justice. Mais il a également désamorcé les premières tensions avec les magistrats. L'avocat pénaliste, qui est l'une des surprises de ce remaniement, a eu du mal, vous allez voir, à contenir son émotion. Ce matin, Barbara Steck, Pierre-Mélé Bélando et David Lemarchand.
En ce matin de passation, il y a de l'émotion sur le perron de la chancellerie.
Je pense en particulier à ma mère, qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour arriver ici, dans ce grand pays. Elle est devenue une Française de préférence. Et la Marseillaise a fait pleurer. Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et des droits de l'homme.
Première plaidoirie du ministre Dupond-Moretti. À 59 ans, la star du barreau devient garde des Sceaux. Son verbe haut, ses coups d'éclat en font aujourd'hui l'avocat le plus connu et médiatique de France.
Je salue la décision du gouvernement, je trouve courageuse, parce que d'abord ça attire, ça vous attire, vous êtes là, on parle de la justice alors qu'on n'en parlait pas beaucoup. Donc ensuite, il a, je pense, ce sens du dialogue, il a cette conviction que la justice est l'un des piliers de notre démocratie, et je partage ce point de vue.
Un bout de la tour Montparnasse.
En 35 ans, Éric Dupond-Moretti a sillonné les routes du pays et les couloirs de ses palais de justice. Au fil des affaires, celui qu'on surnomme l'ogre des assises va se faire un nom. Au début des années 2000, il va gagner ses galons de ténor national avec l'affaire Outreau, en obtenant l'acquittement de sa cliente.
C'est le jour le plus long, mais c'est le jour le plus beau. Et c'est pour nous un immense soulagement, vous voyez. La Saint-Yves, c'est la fête des avocats, mais je crois que c'est aujourd'hui la Saint-Yves. Voilà.
Sa carrière est jalonnée de grands procès. Cahuzac, Mera, ou plus récemment Balkany. Ce dernier donne lieu à une passe d'armes. Face à la presse, l'avocat colérique reprend son client Tatillon.
Son mari, qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte.
Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit.
Et baissez le micro.
C'est ma femme qui a 71.
Ouais, c'est pas bien grave.
Monsieur Dupond-Moretti,
vous verrez quand vous
en... Monsieur Dupond-Moretti.
Ces dernières années, l'artiste des prétoires cessait à la comédie, troque sa robe pour le costume d'acteur au théâtre et au cinéma. Éric Dupond-Moretti, personnage complexe, clivant. Pour ce chroniqueur judiciaire, sa principale difficulté sera de devoir faire face aux magistrats qu'il n'a eu de cesse de critiquer.
Il veut vider les prisons parfois de façon outrancière, ce qui correspond à un combat politique, ça c'est sur le côté gauche. Sur le côté droite, il est quand même dans une défense des puissants au cours de ces dernières années, avec une forme de compromission notamment dans les dossiers concernant Nicolas Sarkozy qui gêne beaucoup la magistrature.
La magistrature inquiète. Son principal syndicat dénonce à travers cette nomination le mépris et parle même d'une déclaration de guerre.
Le problème, c'est qu'à travers cette nomination, on pense effectivement que le président de la République, peut-être, pense que nous faisons mal notre métier. Et comme ça arrive après des années et des années d'un discours assez négatif sur la justice en France, on réagit parce qu'on a le sentiment qu'on est attaqué dans l'essence même de notre métier.
Conscient de la situation et en réponse, ce matin, Éric Dupond-Moretti a voulu dans son discours se montrer rassurant, apaisant.
Ce n'est pas le ministère de la guerre, même si j'ai cru entendre ces mots, mais celui des libertés.
À la justice, Éric Dupond-Moretti promet une nouvelle ère de réformes et de dialogue.
Il a été assez loin, on va y revenir sur l'indépendance de la justice, le secret d'instruction, etc. Des axes qu'il veut donner à son action. Cette question, pour quelle raison un personnage aussi clivant que Dupond-Moretti a-t-il été nommé garde des Sceaux ? Il est clivant, oui.
Oui, il est clivant. Il s'agit de saisir l'opinion, d'abord, de montrer qu'on met quelqu'un qui est connu de tout le monde et connu pour ses engagements au-delà de son métier. Et puis, il s'agit de dire à une institution judiciaire, parfois rétive à la réforme, que cette fois, la réforme se fera. Elle n'a pas pu se faire en douceur de l'intérieur avec une juriste qui connaissait tous les rouages. En tout cas, elle s'est faite un peu trop lentement. Là, bah, il y a le coup de boutoir qui vient de l'extérieur.
Alors, quelle réforme ?
C'est pas une déclaration de guerre, mais c'est réconcilier les Français avec une justice. L'institution judiciaire est contestée. Une partie de l'opinion considère qu'elle libère trop et trop vite les délinquants. Une autre partie de l'opinion considère qu'elle protège les puissants. Une troisième partie de l'opinion considère qu'elle fait de la politique et que les juges rêvent d'un gouvernement des juges. Les derniers rebondissements dans l'affaire Fillon, dans l'affaire Sarkozy, ont donné le sentiment de cela. Quand un ministre doit démissionner parce qu'il a une enquête, François Bayrou en 2017, et pendant 2 ans et demi, il n'y a pas d'acte d'instruction. Ça semble bizarre. Pourquoi cette lenteur alors que d'autres fois, ça va vite ? Bref, il y a une sorte de divorce, au moins intellectuel, entre les Français. Leur justice. Il faut que les juges acceptent de se remettre en question. Il ne faut pas forcément tout casser, mais il faut bien mettre tout sur la table. Et la nomination de Dupond-Moretti de ce côté-là, par sa part de provocation et de détermination, est assez efficace. Encore faut-il après que ça n'aboutisse pas à un grand blocage et à une guerre de tranchées.
Il y a une clique de juges qui s'autorise tout, avait dit Éric Dupond-Moretti. On a vu la réaction des magistrats qui ont été assez inquiets de sa nomination.
Oui, mais malgré tout, on n'est pas sur une ligne précise, comme je ne sais pas, moi par exemple avec Badinter, quand il avait été nommé garde des Sceaux. On est beaucoup plus sur un style, sur une gueule, sur une voix, sur un physique. Mais c'est ça qui a été plébiscité, ça qui est mis en avant.
Ce n'est pas un projet pour la justice.
On n'a pas un contenu précis, il viendra peut-être, mais... Vous savez, Emmanuel Macron a fait son mémoire de maîtrise de philo sur Machiavel. Machiavel, c'est quand même celui qui théorise la maîtrise des apparences. Moi, je crois que c'est d'abord ça. Comment est-ce qu'on maîtrise les apparences ?
Mais on maîtrise quoi en mettant Éric Dupond-Moretti ?
Maîtrise celui qui défend les petits par rapport aux puissants. Alors ensuite, il peut y avoir des puissants qu'il a défendus. Mais le principe, c'est l'intransigeance sur la défense du droit et l'intransigeance des libertés. Et tout ça dans un contexte avec un coffre, un buffet, une voix, un style qui témoigne d'une certaine authenticité. Donc ce qu'on dit, une fois encore, c'est la ligne que je vais privilégier, c'est quand même celle du peuple. C'est cette dimension populiste qu'il y a aussi dans ce remaniement et qui vise, encore une fois, à bloquer au maximum le procès en ceux d'en haut, et puis à contrer justement ceux qui incarnent ou prétendent incarner le peuple, de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon.
Yvan Trippenbach.
Et cette dimension, elle joue à plein aussi au sein du ministère de la Justice. Ce matin, lors de la passation de pouvoir, par exemple, il a dit « Moi, j'ai touché du doigt la réalité des tribunaux, des conditions de travail, des policiers et des juges, des magistrats. » C'est tout l'inverse d'une Nicole Belloubet, par exemple, qui, elle, était élue locale, qui avait un passé politique, même si elle a été ensuite membre du Conseil constitutionnel, mais qui connaissait très peu, en fait, le monde de la justice et qui a mis un temps à s'adapter et à parler aussi à ce monde-là. Éric Dupond-Moretti n'aura pas ce temps d'adaptation, il est déjà un visage de la justice, il est déjà l'incarnation, comme a dit Nicole Belloubet, de cette institution, d'une certaine manière. Et donc, du coup, on a ce côté un petit peu populaire au sein même du ministère. Ça, c'est très important. Ensuite, Éric Dupond-Moretti a quand même une vision, un projet pour la justice qui correspond en fait aussi à celle qu'avait Nicole Belloubet, avec moins de force peut-être pour pouvoir pousser ses réformes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il représente Belloubet et Dupond-Moretti, c'est un petit peu un miroir. L'exact inverse en termes de style ministériel. Après, effectivement, tout dépend. On va voir ce qui va en résulter.
Et on va voir surtout, c'est bien d'être fort en gueule, mais quand on parle, ça s'entend. Je veux dire par là que s'il arrive à l'Assemblée nationale, et on a hâte de le voir et de l'entendre, Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale, quand on fait une bourde, quand on fait une sortie de route, ça se voit et ça s'entend. Est-ce que c'est une prise de risque, cette nomination, à votre avis, Raphaël Baquet ?
Bon, d'abord, c'est un très grand tribun, ouais. Parce que c'est un avocat. Donc, on l'a vu, et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reste très populaire parce qu'il a défendu ceux d'Outreau, ouais. Mais il a aussi défendu le frère de Mohamed Merah, par exemple. Ouais. Hein. Or, ça n'a pas nuit à son image. Donc ça, ça montre son talent. C'est vrai que, par ailleurs, lors de procès, il se conduit parfois d'une façon incroyablement insultante, hein, non seulement pour les magistrats, parfois pour le juré, et puis pour les témoins. Ouais. Lors du procès de Georges Tron, il avait malmené les femmes qui attaquaient Georges Tron d'une façon incroyable, qui lui vaut aujourd'hui d'avoir la manifestation des féministes.
Il y a eu une manifestation féministe contre la nomination d'Éric Dupond-Moretti, oui. Et contre l'animation de Gérald Darmanin.
En référence à ce procès particulier et à la façon dont souvent Dupond-Moretti parle des femmes. Hein. Pour lui, c'est des gonzesses. Donc, il en parle de façon extrêmement cavalière, parfois très brutale et parfois insultante. Donc, effectivement, dans une assemblée, à l'Assemblée nationale, il va falloir quand même qu'il dose un peu mieux sa façon de parler.
Juste un mot sur la mobilisation des féministes, ça concerne aussi Gérald Darmanin.
Alors, Gérald Darmanin, c'est plus grave, si je puis dire, puisque Gérald Darmanin est sous le coup d'accusation de viol. Ce n'est pas tout à fait pareil pour Dupond-Moretti. Donc, effectivement, là, ça a été perçu par les mouvements féministes, enfin, certains mouvements féministes, comme une provocation. Hein, après l'éviction de Marlène Schiappa, dont on ne sait pas très bien à quoi elle va servir, tout d'un coup, effectivement, on a Gérald Darmanin.
Est-ce que c'est un homme de gauche, Éric Dupond-Moretti? Marine Le Pen dit à la justice nomination d'un militant d'extrême-gauche qui souhaite l'interdiction du Rassemblement national, ça promet.
Son origine populaire l'a inscrit dans ses valeurs de gauche. Il vient aussi d'un département qui était traditionnellement de gauche. Il a soutenu Martine Aubry, dans mon souvenir, assez fortement en 2008. Il s'est engagé. Après, il a pris quelques distances. Ça ne l'a pas empêché d'être l'avocat de Patrick Balkany, comme on l'a vu. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris des fonctions partisanes. Il a été très dur avec certains aspects de la gauche, notamment quand elle était au pouvoir et que ça ne fonctionnait pas bien.
On n'en a pas parlé. Est-ce que c'est un signe? Barbara Pompili, numéro 2 de ce gouvernement. Vous nous avez dit tout à l'heure, j'ai retenu votre expression, Boris Ceinturier, sur la volonté du gouvernement d'aller plutôt vers un axe populiste, de parler au peuple plutôt que de tirer les leçons de ces élections municipales où on a vu une vague verte et où on se disait peut-être que ce gouvernement va tirer les leçons de ces élections. Alors elle est quand même numéro 2 du gouvernement, Barbara Pompili.
Oui, elle est numéro 2, mais la réponse, je crois qu'elle est claire. La réponse, c'est non. C'est que la politique du gouvernement ne va pas s'infléchir de manière marquée en faveur d'une politique beaucoup plus écolo, beaucoup plus verte et encore moins évidemment décroissante. Donc Barbara Pompili, elle est là, c'est important. Elle va essayer de faire de son mieux, mais dans l'extrait que vous avez passé, il était déjà assez révélateur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'affirmation tout de suite d'une politique à forte aspérité avec des traits qui allaient être tout de suite discriminants. On va être beaucoup plus dans des petits pas raisonnables, sans doute, que dans une transformation forte.
Elle a une feuille de route. Elle a une feuille de route de la Convention citoyenne, les 146 propositions.
Oui, c'est... dans lesquelles Emmanuel Macron a puisé un certain nombre de choses, d'autres où il a tiré son joker. Mais donc, elle a cette feuille de route. Mais on sent bien que ce n'est pas ça la ligne directrice fondamentale de ce gouvernement. Ça va être la reconstruction, le peuple et Darmanin le maire. Enfin, si je devais le résumer quand même très très rapidement, je dirais que c'est ça. Dupond-Moretti, c'est important, mais sur le fond, ce qui attend le pays, c'est-à-dire les enjeux économiques et sociaux, ce n'est pas du côté du ministère de la Justice que ça va se passer.
C'est à Bercy.
Donc c'est à Bercy et à Place Beauvau.
Justement,
c'est étonnant quand même qu'elle ait fait tant profil bas. Je trouve
Barbara Pompili.
Ah oui, là vous l'avez montré d'ailleurs dans votre extrait. Hein. Elle dit je ne vais rien promettre. C'est incroyable. Alors qu'elle est censée quand même être un petit signal après les municipales quand même. Ouais. Elle est numéro 2 du gouvernement. Or elle est incroyablement profil bas. Ouais. Elle dit pas du tout oui avec moi enfin l'environnement est au
elle
premier
est réaliste.
Plan. Oui. Si on veut, mais politiquement, je suis pas sûre que ça rende tout à fait service à Emmanuel Macron. Elle aurait pu en faire un peu plus.
Et à l'inverse, sur Dupond-Moretti, certes, les syndicats de la magistrature sont très véhéments contre lui depuis hier, peut-être un petit peu moins depuis la passation de pouvoir, mais on a aussi beaucoup de magistrats qui se disent « Chouette, pour une fois, on a un ministre de la Justice en pleine lumière, ça va redorer l'institution judiciaire, peut-être que ça va plaider en notre faveur pour des arbitrages, on ne sait jamais. » Et donc, c'est aussi un espoir pour la justice.
Mais ce que disait très justement Brice Ceinturier, c'est que la principale préoccupation de la rentrée, ce sera sera naturellement l'économie, le social et peut-être l'ordre public. En tout cas, ce sera un gouvernement de combat, car il faut se battre pour l'emploi. Le tout nouveau porte-parole du gouvernement a donc fixé l'une des priorités de cette équipe Castex après le Conseil des ministres qui s'est tenu en début d'après-midi, car l'urgence est déjà là. Le chômage, l'impact social de la crise du Covid, en particulier pour cette jeunesse qui devait entrer sur le marché du travail, celle qu'on appelle déjà la génération Covid. Portrait, Aubry Perrault, Juliette Perrault et Paul-Rémy Barjavel.
J'aime le chocolat, facile. Facile.
I like chocolate.
Chocolate.
À 23 ans, François n'aurait jamais imaginé faire classe à son petit frère.
Non. Je suis en train de manger, ça donne.
Depuis mars et la période de confinement, le jeune homme habite de nouveau chez ses parents.
Ça faisait plus de 5 ans que j'étais parti de la maison. J'ai fait 1 an aux États-Unis, donc j'ai vraiment appris à vivre tout seul. Et donc, oui, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de retourner aussi longtemps ici chez mes parents. C'est bien d'avoir son indépendance. J'espère que je la retrouverai le plus vite possible.
Manque de chance, le séjour chez papa-maman risque de s'éterniser. L'étudiant en patrimoine devait travailler pour un organisme culturel, un stage de fin d'études. Mais la crise sanitaire a chamboulé la fin de son cursus.
Notre établissement a finalement pris la décision d'annuler le déroulement de ses stages pour cette année. Cette décision a été prise le 18 mai 2020 et donc je fais partie des principaux concernés. Ça a mis un petit coup parce que c'était vraiment en plus le stage de rêve pour moi. Depuis mes 5 années d'études post-bac, c'est vraiment ce vers quoi je tendais. Donc c'était vraiment forme d'achèvement et en même temps, ça m'aurait permis de faire un vrai bon départ dans le monde du travail.
Un parcours scolaire stoppé net, pourtant sans faute jusque-là. Alors les moments en famille ont un goût amer pour tous.
Moi, je suis très déçue parce que c'est pas un tempérament à le forcer à travailler, donc on n'a pas eu à le faire. Mais j'ai toujours cru qu'il arriverait à se démarquer, donc il a quand même fait 1 an d'Amérique. Je veux dire, c'était un sacrifice pour lui comme pour nous quand même. Et puis après, on a dit, c'est bien, là il avait décroché un stage magnifique, on s'est dit, c'est super, et il se démarque toujours, mais là, voilà, c'est la chute là.
Comme lui, ils sont 700 000 à terminer leur diplôme cette année, et faire leur entrée sur un marché de l'emploi sinistré. Pour ceux qui travaillaient déjà, la période n'est pas plus prometteuse, même dans les secteurs qui recrutent. Emeric, ouvrier agricole de 22 ans, cherche déjà depuis des mois.
Je poste ma candidature un peu dans toutes les fermes. Et voilà, selon les réponses qu'il y a et selon les trajets qu'il faut faire, qu'il faut effectuer, tout ça, je cherche vraiment dans le secteur aux alentours des 30-50 km, quoi.
Dans ce coin de Picardie, particulièrement frappé par le virus, cet agriculteur semble encore marqué.
On a eu des cas dans le coin, des cultivateurs qui ont été contaminés. Alors bon, ils sont réticents, quoi. Hein, c'est ça la chose. Parce que bon, il y a des gens qui en ont peur, il y en a qui en ont pas peur du tout. Mais je crois qu'il faut quand même prendre des distances quand même. Si j'entends parler, je penserai à toi, hein, pas de souci. Hein.
Un échec de plus, mais le jeune homme ne se laisse pas abattre et se tourne vers la mission locale.
Madame de Garla, bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va et vous ?
Avant la crise, Emeric s'occupait de moutons. Aujourd'hui, sa conseillère en formation lui propose une toute autre activité.
L'ouvrier, donc forestier, va devoir abattre du bois, éclaircir la forêt.
Tant pis pour l'offre idéale. Emeric souhaite avant tout s'y remettre, de nouveau pouvoir se projeter.
Par rapport au Covid et tout ça, ça nous a vraiment mis beaucoup de bâtons dans les roues. On est complètement désorientés. Les patrons, tout ça, sont aussi inquiets que nous.
De l'inquiétude, alors que le chômage chez les moins de 25 ans bat des records. Ils sont désormais 659 000 à chercher du travail, soit 29% de plus par rapport à fin février.
Et un taux de chômage qui devrait atteindre 11% selon la Banque de France d'ici à la fin de l'année. Cette question, Bruno Le Maire est-il le grand gagnant de ce remaniement ? C'est lui qui va devoir gérer cette réalité sociale à la rentrée.
Il a à la fois le principal fardeau, la principale mission, et en effet, il est renforcé pour cela. par le titre, hein, ministre de la Relance, par une tutelle plus affirmée sur le budget, par la présence à ses côtés d'Agnès Pannier-Runacher qui passe à l'industrie, ça va être important aussi pour les logiques d'embauche, et peut-être aussi par un train de réformes, de baisse de charges, de toute une série d'ajustements qui permettront aux entreprises, dans une incertitude économique maximum, de quand même passer le cap et d'embaucher des gens. Mmh. Il va falloir vivre néanmoins avec ce chômage, avec beaucoup de contrats précaires, c'est-à-dire les contrats qui se débloqueront ne sont sans doute pas des CDI. Donc là, c'est un peu une révolution pour l'organisation du travail en France. Et puis, il y a eu ce chômage partiel, qui a été un formidable parachute, mais qui a été aussi peut-être un piège. C'est très difficile d'en sortir. Donc il faut aussi que Bruno Le Maire fasse sortir l'économie de tout ce système de sécurité qui fait qu'en France, on tombe moins bas que les autres quand il y a des crises parce qu'on a cet édredon social, mais on remonte moins haut quand ça repart parce qu'un édredon ne peut pas se transformer en trampoline.
Et c'est vous qui parliez tout à l'heure des petits, pour parler des Français, de ceux qui vont sans doute le plus être impactés par la crise. Et Bruno Le Maire a eu cette phrase tout à l'heure. Il a dit que la relance sera verte, voilà, industriel et pour les plus petits, donc avec cette volonté
de protéger davantage. De protéger. Le Bruno Le Maire, il y a quelques années, qui était très libéral, il a disparu. À l'aune de la crise, il a bien vu que les mécanismes de protection étaient essentiels. Il est plutôt celui qui a le plus poussé pour ces mécanismes-là. Et dans votre reportage, on voit très bien ce qui fait écho à une enquête qu'on a réalisée pour le CESI, qui a été publiée dans les Échos récemment, et qui est l'anticipation massive des chefs d'entreprise vers moins d'activité. Et là, on est sur des records bien plus importants qu'en 2008, au moment de la crise de 2008, par exemple. Donc, cette question de la protection de l'emploi et de la capacité à régénérer des emplois, des stages dès la rentrée pour une partie de la jeunesse française, elle est décisive. Et ça, c'est Bruno Le Maire qui va le porter.
Ce sondage, les Français approuvent le gouvernement Castex, mais n'en attendent pas grand-chose. C'est un sondage Odoxa qui a été réalisé en partenariat avec France Info. Qu'est-ce qu'ils attendent en particulier, les Français, d'une équipe comme celle-ci? D'un Premier ministre qui va s'exprimer d'ailleurs demain matin chez nos confrères de BFM, qui fait un séminaire gouvernemental ce week-end. Hein, Jean Castex, il a réuni ses ministres pour les mettre au travail. Est-ce qu'il y a une attente des Français avec ce nouvel gouvernement tel qu'on le connaît aujourd'hui?
Je n'ai pas vu l'enquête de mon confrère, mais les Français, c'est un vieux peuple qui a vu beaucoup de remaniements. Donc je crois qu'il est vacciné sur beaucoup de choses. À mon avis, il doit y avoir un peu de bienveillance vis-à-vis justement de ces personnalités qui sont plus authentiques, plus proches peut-être d'une partie des Français, et beaucoup de réserves ou d'attentisme ou de scepticisme sur la capacité à transformer fondamentalement les choses.
Ce ne sont pas vos chiffres, mais vous allez m'aider à les analyser. Sur la composition du gouvernement, ils sont favorables à 51%, voilà. Sur le choix du Premier ministre, 52%.
Voilà. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais.
C'est un peu, voilà.
Il n'y a pas quand même un fol enthousiasme. Encore une fois, c'est un vieux peuple qu'on a vu depuis longtemps. Mais en même temps, il n'y a pas de rejet non plus.
Celui qu'ils attendent, ce n'est pas le président de la République le 14 juillet?
Et celui qu'ils attendent, de toute façon, c'est le vrai patron. Et le vrai patron, c'est celui pour lequel on vote au moment de l'élection présidentielle. Ça, ils ont totalement intégré les règles de la Ve République. Donc tout ce qui est fait là, c'est pour ça qu'il y a un peu de distance, est observé, c'est important. Je pense que les personnalités, l'idée qu'on change un peu les choses, ça donne des signes. Ça donne des signes de ce que Macron a compris un certain nombre de choses sur la société française, sur les Français. Donc c'est, encore une fois, je ne le minore pas, c'est important. Mais sur le fond, la réalité, c'est que les Français savent massivement, les deux tiers d'entre eux nous le disent, qu'on est face à une crise qui va être profonde et durable, et que celui qui impulse la direction, c'est le président de la République. Alors ça ne veut pas dire que Jean Castex est un collaborateur, surtout pas.
Je pense qu'on va comprendre. Ça ne lui a pas plu.
Ça ne lui a pas plu, et on va comprendre que c'est un homme pas simplement de terrain, c'est aussi un homme d'autorité qui connaît très bien l'appareil d'État, qui sait se faire respecter, qui sait travailler en équipe, mais c'est surtout pas un collaborateur. Mais celui qui donne le là, c'est le président de la République, et ça, c'est la Ve République.
Non, mais surtout, on interroge les Français sur des... Comment voulez-vous qu'ils ne savent pas qui est Jean Castex? Ils l'ont découvert et ils ne savent pas qui sont les ministres.
Mais ils sont déjà 50% à être contents.
Oui,
c'est quand même nouvelle parce qu'il y a une semaine, disait qu'Édouard Philippe était tellement populaire que Macron ne pouvait pas s'en séparer, que tout successeur serait voué aux gémonies. Et on se rend compte que la mécanique de la Ve République, le surgissement d'un profil nouveau charisme empathique, peut-être plus empathique que l'était Édouard Philippe, ça fonctionne. Alors c'est des premiers pas et c'est des impressions, mais ça fonctionne.
Vous avez raison de le rappeler parce qu'on expliquait même ici ou là que le président était piégé par la popularité de son Premier ministre.
Et voilà, une semaine après, on ne parle plus que de Castex.
Quelques semaines aussi après une crise sanitaire qui a généré des niveaux de colère inédits qui ont été mesurés par différents instituts de sondage, des niveaux de colère qui étaient inédits en Europe. La France était vraiment singulière par rapport à nos voisins européens. Et puis, un niveau de colère centré sur la figure d'Emmanuel Macron. Le président cristallisait en fait la colère des Français dans la gestion de la crise sanitaire.
Est-ce que les deux ténors dont nous avons parlé ce soir peuvent protéger d'une certaine manière le chef de l'État en étant présent dans les médias? C'est pas leur fonction.
C'est pas leur fonction, mais en réalité, depuis les Gilets jaunes, et sans que ça imprime vraiment dans l'opinion, Macron essaye de poser un certain nombre de petits cailloux pour dire « j'ai compris ». J'ai compris dans ma relation avec les Français ce qui n'allait pas. Et
compris, il y a moins de techno.
Voilà.
J'ai compris, je prends des gens comme Éric Dupond-Moretti qui protègent les petits, on va le résumer comme ça. J'ai compris, je prends des gens qui vont porter ma politique dans les médias et qui vont incarner ce que je fais.
Oui. Et en même temps, on est bien dans le même temps, je ne change pas non plus totalement mon fusil d'épaule. Ma ligne économique et politique, elle reste globalement la même, même si je mets un bémol sur le côté libéral, mobilité, etc. On est plus sur le côté protection. Donc là, il y a une inflexion quand même qui est importante. Mais tout cela, c'est pour dire, j'ai intégré un certain nombre de choses. Il s'est fracassé, il faut bien le dire, au moment des Gilets jaunes. Et Emmanuel Macron a été extraordinairement dépourvu à ce moment-là. Et depuis les Gilets jaunes, il essaye de reconstruire quelque chose dans sa relation avec les Français. Ce gouvernement, c'est une des étapes. Il reste 600 jours, nous a-t-il dit. Oui. Et bien, c'est une des dernières étapes avant l'élection présidentielle pour matérialiser cette supposée nouvelle relation avec les Français.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Comme pour une équipe de football, on prend quelques vedettes pour épater le public, mais on ne change pas le système de jeu. Raymond, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, je n'y connais pas trop en foot, mais visiblement, ça fonctionne comme ça.
Oui, ça fonctionne comme ça, et à condition que les vedettes marquent des buts. Et quand vous ajoutez Kylian Mbappé et Paul Pogba en forme en 2018, vous gardez le même système de jeu et vous gagnez la Coupe du Monde. Si vous avez des vedettes qui ne marquent pas de buts, vous finissez par être sifflé par les supporters.
Le showbiz n'est-il pas en train de prendre l'ascendant sur la politique ? Le showbiz n'est-il pas en train de prendre l'ascendant sur la politique ? Est-ce que c'est le showbiz, Roselyne Bachelot et Éric Dupond-Moretti ?
Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment, quand je disais la maîtrise des apparences, il y a l'idée d'aller chercher des gens qui impriment dans l'opinion. Ce n'est pas anodin qu'Éric Dupond-Moretti soit aussi un acteur, pas simplement un avocat, mais un acteur au théâtre. Donc on essaye de mettre en scène des symboles, des personnalités, des apparences, des jeux de représentation. Encore une fois, les Français n'en sont pas dupes, mais il y a des choses qui passent.
Ce n'était pas la méthode Macron jusque-là.
Non, mais en revanche, ça a été la méthode de nombreux présidents. Ouais. Mitterrand avait fait venir Bernard Tapie. C'était aussi une figure populaire, grande gueule. C'était le même genre de profil, d'une certaine façon.
Non, puis quand Macron choisit Nicolas Hulot, c'est aussi avec la volonté de marquer l'opinion publique, de choisir une figure populaire qui est identifiée sur ces sujets.
Ça s'est mal terminé.
Et ça s'est mal terminé. Et la comparaison est parfois faite dans les arcanes de la majorité. On verra bien.
Pourquoi les syndicats de magistrats s'offusquent-ils de la nomination de Éric Dupond-Moretti ?
Il a eu des propos très durs quand même, soit sur des affaires récentes, en parlant de méthode barbouze pour certains juges, soit régulièrement au fil de sa carrière sur des magistrats dont il considérait qu'ils n'étaient pas dans le respect des règles. C'était à la fois de bonne guerre parce qu'il était avocat, donc il était dans la partie en face. Et parfois, ça ressemblait quand même à une volonté de secouer l'institution. Donc on peut comprendre les magistrats qui ont l'impression qu'on leur met à l'intérieur de leur ministère un ennemi de leur corporation. Encore une fois, si la magistrature avait depuis des années relevé les défis de la modernisation, ils n'en seraient pas là. Ils se sont coupés d'une partie de la population, ils se sont coupés du politique, ils l'ont défié. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils se retrouvent avec cette nomination. Mais Éric Dupond-Moretti est bien trop malin pour se comporter à l'intérieur de la maison de justice comme un ennemi des juges. Il sait bien que s'il arrive à réformer cette magistrature, ça sera avec eux, pas contre eux, sinon tout va se bloquer rapidement.
Éric Dupond-Moretti incarne-t-il, comme Didier Raoult, une forme d'élite scientifique judiciaire populiste ? Raphaël Baquet.
Oui, alors, il n'est pas quand même en train de tirer au lance-flamme sur tous ses confrères comme le fait Didier Raoult. Donc, c'est un peu différent. Je pense qu'il est aussi plus habile. Alors, il a le même narcissisme, ça c'est vrai. Il y a une forme de personnalité un peu semblable. Ce n'est pas tout à fait la même catégorie, je dirais.
Non,
je pense qu'il n'est pas dans l'establishment contre moi ou moi contre l'establishment, alors qu'il y avait cette dimension avec Didier Raoult, les scientifiques, on va dire, autorisés du comité versus moi, Marseillais, différent, etc. Il est plus dans quelque chose de l'authenticité populaire, encore une fois, rugueuse, un peu grande gueule, mais ce n'est pas contre l'establishment.
Ce nouveau gouvernement n'est-il pas de droite et seulement de droite ?
Pas seulement. Il y a quand même encore des macronistes, il y a même encore cette volonté du dépassement. Et puis, il y a des signes donnés sur le social, à la gauche ou à l'écologie. C'est vrai que le « et en même temps » dont on s'était dit en 2017, ça va être d'abord les réformes de droite, les réformes libérales. Puis quand l'économie sera repartie, eh bien, ça sera le « en même temps », deuxième temps, c'est-à-dire la gauche, on distribue les acquis de la croissance. Eh bien, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que les réformes libérales avaient à peine commencé à donner des petits résultats que l'épidémie de Covid a cassé cette croissance et a ramené la crise économique.
Qui reste-t-il comme figure de la gauche ?
Jean-Yves Le Drian est quand même là. Barbara Pompili a un parcours, elle a été ministre de François Hollande. Emmanuel Macron, lui aussi, est venu d'une partie de la gauche. Et puis d'autres, on parlait de l'arrivée de Brigitte Bourguignon. Il y a quand même des ferments de gauche. Olivier Véran, un ancien député de gauche, il prend du galon quand même dans ce ministère. Olivier Dussopt, qui passe de la fonction publique au budget. C'est pas rien, le budget. Eh bien, c'est quand même quelqu'un qui vient de la gauche. Donc il y a quand même des signes. Alors évidemment, ce sont des gens qui ont quitté leur camp. Donc on peut les traiter de renégats et puis de socialistes de pacotille, mais ils ont porté en eux cette fibre sociale, à eux de la faire vivre.
Donc le « en même temps » n'a pas totalement disparu, alors ce que dit Christophe Barbier. Vous êtes plus sceptique.
Moi, je suis plus sensible au fait, d'abord, que quand vous prenez les sympathisants de La République En Marche aujourd'hui, ils se positionnent massivement au centre droit et à droite, et plus du tout à gauche, il n'y en a plus que 13%, et que la ligne politique de ce gouvernement, me semble-t-il, est totalement cohérente avec ce positionnement. Donc la dimension, la sensibilité de gauche, elle est quand même très minorée, elle est à peine existante.
Et la droite est en la majeur et la gauche en mi bémol, voilà.
En fait, la gauche, effectivement, elle l'a perdue, alors même que, on voit bien quand même dans le Covid, les mesures de protection, c'est pas libéral.
Non. Hein,
donc pas du tout, même. Or, ça n'est pas du tout porté à son crédit comme mesure de gauche, entre guillemets. Pas du tout. En fait, il a vraiment largement perdu la gauche, même en faisant des mesures très protectrices.
Il n'a pas essayé de récupérer la gauche.
Par la gauche.
Il n'a pas essayé de récupérer la gauche avec les nominations qu'on vient d'évoquer et de commenter ce soir.
Ni avec les alliances électorales ou municipales.
Dans une enquête qu'on a réalisée dimanche au moment du second tour des municipales, on avait posé cette question: est-ce que vous souhaitez que la prochaine ligne gouvernementale soit plus à gauche, plus à droite, ou ni plus à gauche, ni plus à droite? Ce qui est quand même marquant, c'est que vous avez 52% de Français qui vous disent ni plus à gauche, ni plus à droite. C'est plus ça le problème. Oui. Donc ça montre bien.
C'est l'efficacité le problème ?
C'est l'efficacité, c'est la demande de protection, c'est l'attitude face à la crise, c'est la coupure entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Donc on voit bien que le clivage gauche-droite, il a réellement cessé d'être hégémonique. Il n'a pas disparu, mais ce n'est plus la question centrale. Est-ce qu'il faut que la politique soit
pourtant,
plus à gauche ou pas plus à gauche ?
On passe notre temps à expliquer que ce gouvernement est plus à droite. Vous voyez, comme on aime. C'est les vieux réflexes, sans doute.
Tout à fait, parce qu'il n'a pas disparu.
Alors, pourquoi Roselyne Bachelot revient-elle en politique avec ce ministère ? C'est vrai qu'elle avait dit plus jamais, mais c'était le ministère de ses rêves.
Il ne faut jamais dire jamais, ça c'est déjà une première leçon. C'est le ministère de ses rêves, c'est une passionnée d'opéra. C'est très difficile de refuser d'entrer dans un gouvernement. C'est vraiment très difficile. Elle a le virus. Elle a le virus même par héritage familial. Donc même si on a pris des coups, même si on a goûté à d'autres plaisirs, finalement on y revient. Elle y revient dans une période très particulière où il faut sauver la culture, notamment la culture du spectacle vivant à cause de la crise économique liée à l'épidémie. Et puis, il faut s'occuper de dossiers extrêmement lourds sur les institutions. C'est vrai de l'opéra, qui est touché au-delà de la crise de Covid, après la grève de l'hiver, par une défaillance maintenant structurelle. C'est vrai de l'audiovisuel public, qui était l'objet d'une grande loi qui est un peu maintenant désarticulée, là aussi, par l'épidémie. C'est vrai aussi du régime social des intermittents, qui est prolongé par une année blanche, mais dont on sait qu'à un moment donné, il faudra trouver une manière de le réformer et de le pérenniser. C'est pas simple.
Donc elle arrive avec des vrais chantiers.
Elle arrive avec des vrais chantiers et, à mon avis, un temps trop court. C'est-à-dire que ces chantiers, elle pourra les préparer.
Et un budget trop contraint.
Et un budget contraint. Aboutir d'ici avril 2022.
Barbara Pompili est anti-nucléaire. Va-t-elle réussir à accélérer la transition énergétique et à affronter les lobbies ? Bon, est-ce que ça fait partie de sa feuille de route ? En tout cas, c'est vrai qu'elle est militante anti-nucléaire.
Elle ne l'a pas mise en avant, en tous les cas, elle ne l'a pas mise en avant.
Écoutez, la fermeture de Fessenheim, c'est une plus grande preuve d'anti-nucléaire qu'on n'ait jamais vue.
Pourquoi avoir pris le risque de proposer Beauvau à Gérald Darmanin alors qu'une affaire judiciaire est en cours, Christophe Barbier ?
On considère que cette affaire, qui avait été déjà classée une première fois, réouverte pour des raisons apparemment techniques, devrait être classée, elle ne comporte pas un risque. On le voit, il y a un risque dans l'opinion, il n'y a peut-être pas de risque dans les prétoires.
Allez, une dernière question, n'est-ce pas ? Avant tout, un gouvernement de combat pour gagner les élections de 2022 ?
Si, bien sûr.
Ça ressemble à ça ?
Ça ressemble à ça, 600 jours, cela a été dit par le porte-parole, Gabriel Attal. Donc 600 jours pour travailler et évidemment, à la clé, gagner les élections.
Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée à vous.